Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
C'est dans la ville de Rennes les compagnons. C'est dans la ville de Rennes les compagnons.
Dégémermat et Braise, bienvenue en Bretagne.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. La péninsule bretonne est située entre la Manche au nord, la mer Celtique et la mer d'Iroise à l'ouest, le golfe de Gascogne au sud. Elle forme ainsi le sommet nord-ouest de l'hexagone français. Le nom de Bretagne est issu du latin Britannia, utilisé dès le 1er siècle par les Romains pour désigner la Bretagne insulaire ou Grande-Bretagne. La Bretagne, ce sont 4 départements, 22 les Côtes d'Armor, 29 le Finistère, 35 Ille-et-Vilaine et 56 le Morbihan. Suivez le guide réalise presque un sans faute, 3 sur 4, le Morbihan reste au port. Pour ce quatrième Suivez le guide breton, nous sommes à Rennes, chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Les rencontres rennaises, Jean-Philippe et la galette saucisse, Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine, dont nous fîmes connaissance au cours du premier rendez-vous rennais, et tout de suite Romain Joly au restaurant Origine.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Dégémermat et Roisson, bienvenue à Rennes.
Rue de l'Hôtel-Dieu, je suis face à l'Hôtel-Dieu, l'ancien hôpital construit en 1858 à Rennes, dont l'activité a cessé il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, ce lieu accueille des activités bien, bien différentes que nous allons découvrir avec Romain Joly et entrer dans The Roof et Origine, un bistrot micro-brasserie. Rencontrer Romain Joly, c'est étonnant parce que c'était la cour de l'hôpital. Aujourd'hui, il y a des terrasses. Tout cela est éphémère. Enfin, un éphémère plutôt longue durée, parce que ça a commencé en 2019 et je crois que la fin de l'aventure se terminera en 2025. Donc c'est un éphémère longue durée. Nous allons rencontrer Romain Joly dans sa micro-brasserie et bistrot. Romain Joly, Romain, je te rejoins dans le bar, bistrot, restaurant, Origine. Quand je regarde autour de moi, tu vas nous préciser où sommes-nous. Et pourtant, ce qui attire mon attention, quand je regarde autour de moi, je vois écrit en grand « pharmacie ». Et puis, sur l'une des étagères, il y a des livres, il y a un vieux projecteur Super 8, mais je vois aussi « rayon X ». C'est pas ce qu'on attend à trouver dans un restaurant.
Ouais, mais en fait, c'est juste que c'est un restaurant qui est réellement construit dans une pharmacie. On est dans l'Hôtel Dieu, un peu au nord du centre-ville de Rennes. L'Hôtel Dieu qui est un ancien hôpital, ancien hospice, qui est devenu un hôpital, qui est devenu une maternité, situé un peu au nord du centre-ville de Rennes. Et donc nous, on a fait donc notre resto dans cette pharmacie avec nos copains de The Roof qui ont une salle d'escalade de bloc. Et puis on a aussi également une micro-brasserie un peu plus loin dans un ancien bloc opératoire.
Et quand on entre dans le bâtiment, on trouve aussi des noms qui sont gravés dans le marbre, vraiment, qui sont les bienfaiteurs, les donateurs de l'Hôtel Dieu. Donc c'est très étonnant. Quand on entre, on est surpris, bien sûr, quand on entre ici pour la première fois.
Nous, ce qu'on a voulu, quand on a repris ce lieu, on est arrivé en avril 2019, on a fait quelques mois de travaux. L'idée, c'était pas non plus de faire table rase du passé. Bien au contraire, c'est un lieu, l'Hôtel Dieu, qui est assez cher aux Rennais. Il y a beaucoup de jeunes Rennais qui sont nés ici. Et donc, du coup, l'idée, c'était pas de faire table rase, bien au contraire, c'était surtout de garder l'esprit. Comme tu peux voir, au-dessus du comptoir, c'est plein de négatoscopes.
J'avais pas identifié, mais pour les radios.
Ouais, exactement, qui servaient à éclairer les radios dans les salles de consulte. Ça, c'est tout ce qu'on a récupéré dans l'hôpital et ça nous sert d'éclairage de la salle.
Celles et ceux qui sont nés ici, effectivement, ne s'attendaient pas un jour à venir non seulement manger ici, mais déguster une bière artisanale à l'Hôtel Dieu.
Quand on voit là où est notre microbrasserie, Ben, il brasse dans un ancien bloc d'orthopédie. Quand on est arrivé, il y avait encore la table et la grosse lampe au-dessus de la table.
C'est un lieu éphémère, mais on pourrait dire que c'est un éphémère longue durée ici.
Ouais,
c'est un éphémère CDI.
Ouais, c'est un éphémère qui dure un peu et c'est pas pour nous déplaire. Effectivement, à la base, c'était un projet sur 3 ans. On devait partir en avril 2022. Il y a eu 2-3 petits soucis entre-temps, notamment la crise du Covid. Les travaux qui nous entourent ont pris pas mal de retard. Puis finalement, On est encore là, je sais pas trop pour combien de temps, mais en tout cas, vu l'énergie qu'on a mis dans ce lieu-là, pour le réhabiliter, pour le remettre au goût du jour et aussi remettre au format de nos activités, on y est attaché, on a envie d'y rester aussi tranquillement et d'en profiter. Quoi. On est tout juste à l'âge de la majorité quoi, et on commence à vraiment trouver nos marques. Bah, finalement, rester un peu permet de profiter aussi de cette structuration et du fait que bah, on est une entreprise un peu plus adulte.
Se réchauffer un peu, braise, 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 viens mettre le feu, braise, 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 à trois c'est encore mieux.
En échangeant avec toi, j'échange avec un ancien, je ne sais pas si ancien, mais ton premier métier, ce n'est pas la restauration, c'est la photo, c'est ça, la photographie ?
Tout à fait, ouais, j'étais photographe de presse pendant 12 ans. C'est en 2014 que j'ai un peu switché, que j'ai voulu redonner un autre élan à ma vie pro et puis que je suis reparti à l'école.
Ah oui, pour apprendre la cuisine ?
Voilà,
pour apprendre. Parce que cuisinais-tu quand tu étais, on peut être photographe et cuisiner
Oui, oui. J'ai toujours eu cette passion pour la cuisine. J'ai toujours eu une maman, une mamie qui m'ont toujours mis sur les tabourets pour faire à manger. J'ai toujours aimé ça. Je viens d'une famille où la cuisine, la table, le côté convivial a toujours eu un grand sens. Puis après, il a fallu apprendre à faire à manger pour...
c'est la différence.
Pour un peu plus de personnes et d'essayer...
Et heureusement, un peu plus de personnes.
Oui, essayer d'apprendre vraiment ce qu'est le métier de cuisinier. Il y a un delta entre aimer cuisiner et être cuisinier. Et donc, du coup, je suis parti en apprentissage dans un petit bistrot qui n'existe plus, qui s'appelait L'Arsouille à Rennes, qui était une vraie cuisine de produits et que j'essaye de continuer parce que c'est vraiment ce qu'on m'a inculqué. Et c'est aussi clairement le but d'origine, c'est ça, c'est d'avoir une cuisine très proche du produit.
C'est ça, on va en parler. Es-tu rennais ?
Non, je suis pas rennais, non. Je suis du Nord-Sarthe à la base. Après, je suis en Bretagne depuis 2001. Et j'ai passé la moitié de ma vie en Bretagne quand même.
Et c'est attaché à Rennes aujourd'hui ?
Ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Je suis attaché à Rennes, je suis attaché au terroir, je suis attaché au réseau aussi. Qu'on a pu monter sur Rennes, c'est aussi un réseau de restaurateurs très proche.
Alors on va en parler. Mais j'arrive du marché d'Élysée, c'est un lieu que tu fréquentes.
Tout à fait, ça fait partie
du deuxième plus grand marché de France. Hein.
Et écoute, c'est effectivement un marché que je fais tous les samedis.
Tu y étais ce matin ?
Oui, j'y étais ce matin. Ah, ouais. J'y étais ce matin. Effectivement, c'est un des marchés que je fais dans la semaine. C'est celui que je loupe quasiment jamais, je pense. Je dois en louper 3-4 dans l'année.
Par exemple, ce matin, qu'as-tu rapporté de...
Ce matin, ça commence à être un peu sympa. Là, on arrive vraiment dans le côté printanier. Là, on commence à avoir des petits pois, on commence à avoir les premières courgettes, on commence à avoir les mini fenouilles, les mini betteraves, les petites pommes de terre primeur. Les artichauts, exactement.
Parce qu'on, de Bretagne.
On aura ce midi à la carte d'ailleurs les petits artichauts poivrades. C'est vrai que ça commence à être vraiment chouette là.
À origine, tu as apporté vraiment des valeurs. Il y a même, alors on va parler de ces engagements qui sont pris, mais ça tu vas nous l'expliquer, mais sinon vraiment des valeurs dans plein de domaines, finalement, aux produits, dans la façon de travailler.
De aussi faire la cuisine d'une manière générale, c'est à la fois c'est faire la cuisine dans le sens respecter le produit, respecter ses producteurs, respecter ses collaborateurs aussi, leur donner du temps pour qu'ils aient du temps pour vivre à côté de ce super métier. C'est un peu les engagements qu'on essaye de prendre au travers du collectif nourriture.
Collectif nourriture,
voilà,
c'est ça.
Qu'on a monté avec plusieurs restaurateurs, c'est un peu issu de...
Mais Rennais ou...
Ouais, c'est Rennais.
Région.
Péri- périphérie rennaise, mais en gros c'est rennais, hein, essentiellement rennais. Et l'idée c'est d'avoir cette vision transversale en fait de la cuisine. Quand même, c'est un métier, mais tout comme la photographie pouvait me l'apporter, hein, où on va toucher plein de domaines en fait, quoi. On va toucher à la fois l'économie, on va toucher à la fois l'agriculture, on va toucher à la fois l'écologie, on va toucher le social. Et l'idée c'est de réussir à faire de la cuisine ce levier transversal qui va venir toucher plein de petits domaines et essayer de faire bouger les choses à notre échelle en fait.
C'est un engagement assez militant.
Ah ben, complètement.
C'est militant, c'est probablement contraignant aussi. C'est pas trois lignes d'engagement, c'est plusieurs pages d'engagement. Hein.
Ouais, c'est plusieurs pages d'engagement. C'est un engagement de perspective en fait, quoi. C'est un engagement qui nous oblige à aller plus loin aussi, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas de dire on fait tous ces petits trucs-là bien et puis c'est génial. En fait, c'est pas un label, en fait, quoi. Ouais. C'est à la fois une ligne directrice et puis une charte, quoi. Et
donc 100% frais, 50% produits locaux, en mettant jusqu'à 160 km, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Après...
c'est pas au kilomètre près.
Ouais, c'est pas au kilomètre près et que je pense que la plupart des signataires de la charte de nourriture sont pas à 30 bornes, quoi. Là, clairement, quand on fait le marché, je pense que ce matin, il n'y avait pas un produit qui venait à plus de 40 km.
Ouais. Précis à galon, car on porte cuivre, brûlé, mais on a voudré arpet trop droit. Dispancrés à baise, on t'a douqué.
Beaucoup de chefs de restaurants en France le font, les produits de la région, du terroir, du frais, etc. Mais c'est vrai que j'entends moins cet engagement. Peut-être le font-ils, mais en le rendant public sur les produits d'entretien aussi, parce qu'on pense moins aux produits d'entretien.
Sur les produits d'entretien, sur ton éclairage, sur ta manière de chauffer ton bâtiment, sur la manière de récupérer tes restes, sur la manière de valoriser tes déchets. Nous, par exemple, on a un compost. Après, on a aussi cette chance d'avoir quand même beaucoup de place.
Oui.
On a un compost en ville. On utilise de la méthanisation pour tout ce qui est nos drèches de brassage, en fait, quoi, nos résidus de brassage, qui représentent quand même plusieurs centaines de kilos par semaine. Il y a une partie qui part aussi en alimentation animale. Donc du coup, mine de rien, c'est un engagement sur plein de secteurs. Et puis il y a aussi le côté, j'ai envie d'y revenir, parce que c'est un vrai engagement, c'est le côté social.
Je comptais bien y revenir aussi, humain. Par exemple, sur la discrimination, par exemple.
Oui, c'est le côté humain, le côté social, le fait de mettre l'apprentissage au centre aussi de nos pratiques, quoi. C'est de former des gens. Le but aussi, c'est de se dire que... ce mouvement qui est nourriture ne doit pas disparaître le jour où on cessera notre activité, quoi. Et donc du coup, tel des prosélytes, on doit aussi convertir toute une jeunesse apprenante dans les valeurs qu'on a envie de...
Convertir à l'Hôtel Dieu.
Ouais, tout à fait, ouais, mais exactement. Moi, je suis persuadé qu'on soigne et qu'on convertit à l'Hôtel Dieu, ouais. Je veux former, je veux qu'il y ait des gens qui rentrent dans cette cuisine et qui sortent avec une vraie envie, quoi, et puis des vraies valeurs aussi.
Du coup... Est-ce que ce projet attire des personnes pour venir travailler avec toi? On sait combien aujourd'hui c'est difficile de pouvoir constituer des équipes en cuisine et en salle partout. Hein.
Je pense qu'on a cette chance de pas trop courir après les gens. On a cette chance d'avoir beaucoup de jeunes qui ont envie de venir faire des stages ici. Après, je dis pas qu'un jour on n'aura pas des problèmes de recrutement, mais en attendant, pour l'instant, on arrive à attirer des profils qui sont chouettes, qui sont intéressés, qui sont motivés, qui sont souvent rempli de beaucoup de valeurs et qui pousse aussi la machine beaucoup plus loin, quoi. Je mets des objectifs qui sont souvent dépassés par mes équipes, quoi. Et ça, c'est très chouette dans le sens où ils te poussent à faire mieux, en fait. Ils te questionnent, ils questionnent tes choix. C'est vrai que ça permet d'aller plus loin ensemble.
Ils t'appellent chef ?
Ah, pas du tout, non. Non, ils m'appellent pas chef. Bah, des fois, Théo, quoi, quand il s'est fait engueuler, mais... Même pas en plus. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, personne ne m'appelle chef. Souvent, quand il m'appelle chef, c'est pour me faire chier, en fait. C'est pour m'embêter. Effectivement, j'ai une responsabilité dans cette cuisine. J'ai la responsabilité qu'elle tourne, que les gens s'y sentent bien, que les gens soient heureux, que les horaires de travail soient respectés, que les clients soient satisfaits. Par contre, il n'y a pas cette notion de chefferie. C'est comme ça, quoi. C'est une cuisine différente. Je pense qu'il y en a plein des cuisines différentes maintenant.
Et les Beatles, c'est dans la charte ?
Non, les Beatles, c'est parce que Théophane a fait une bêtise tout à l'heure et il a voulu me calmer en mettant les Beatles. Voilà.
Et ça a marché, visiblement.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
On passe enfin aux choses sérieuses. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se prépare pour le déjeuner? Enfin, qu'y a-t-il au menu ce midi? Parce que là, on bavarde en fin de matinée, juste avant le service du déjeuner.
Oui, c'est parce que j'ai une super équipe que je peux me permettre de bavarder juste avant le déjeuner. En fait, ils sont en train de turbiner, ils tombent dans tous les sens, je les vois là. Moi, j'ai cette chance aussi d'être vachement entouré. Et c'est chouette, en fait. Et j'adore les voir.
Tu aimes bien les regarder travailler?
Ouais, j'aime bien les regarder travailler, ouais. Ouais, carrément. Ouais, j'adore ça. J'adore travailler avec eux et j'adore les voir évoluer comme ça. Et donc, du coup, ce midi, il y a plein de choses chouette. Il y a une basse côte de vache armoricaine qu'on a avec un producteur pas très loin d'ici. Ouais.
Donc le produit est toujours mis en avant et ouais. Tu peux mettre un visage sur le produit très souvent.
Oui, on peut mettre un visage, on peut mettre le nom d'une vache. Et on connaît en fait tous nos producteurs quasiment. Et là, du coup, on a fait une sorte de poteau au feu, quoi, mais le feu vietnamien, quoi. Et du coup, on a fait un beau bouillon de bœuf avec plein de
Un poteau wok ?
C'est un poteau pot.
Poteau pot, oui, c'est ouais, ça plutôt.
Voilà. Ouais. Et donc du coup, on a ce côté assez tradi et à la fois un peu voyage dans ce plat-là, avec plein de petits légumes nouveaux. On a de la Saint-Jacques, c'est les dernières Saint-Jacques de l'année, des Saint-Jacques de plongée de nos copains de chez Velga, qui sont des plongeurs qui vont faire de la coquille Saint-Jacques comme ça en plonge.
Tout à l'heure, tu parais les poissons, là, ou tu préparais les poissons.
C'est des poissons qu'on va faire fumer, c'est des orphies. Ah. C'est la saison des orphies, en mai, juin. C'est
il n'y a même pas les orphies, moi.
C'est des petits poissons longs à... blindé d'arêtes, mais assez chouette, qu'on va mettre au sel, qu'on va derrière, on va fumer. Et il y a aussi la cuisine d'origine, c'est aussi ça aussi, quoi. C'est une cuisine de produits. Quand le produit est là, on le prend. On ne sait pas toujours ce qu'on va en faire. On n'a pas de carte fixe. Il y a aussi pas mal de choses où qu'on travaille en réserve, en salaison, en fumaison, en lactofermentation, qui nous permettent de faire durer un peu les saisons. C'est vrai que quand le produit est là, eh ben on le prend et puis on voit ce qu'on en fera. Et là, clairement, les orphies, ils sont là parce qu'il y en avait hier chez mon mari hier et on en profitera.
Il y a des jus, je vois jus d'hibiscus, etc.
Ouais, on fait tous nos jus maison. En fait, ici, tout est fait maison. Par exemple, là, ça sentait un peu la fraise ce matin. C'est juste qu'on a acheté 10 kilos de fraises et qu'on fait nos sirops.
Des sirops carrément.
Ouais, on fait nos sirops pour le bar et on va faire sirop de fraises, sirop de rhubarbe. En général, à part le jus de pomme et du jus de poire aussi, clairement... on ne fait rien d'autre qui ne sort pas de nos cuisines ou de la brasserie.
C'est ça, donc microbrasserie. Et vin nature.
Voilà, et vin nature. En gros, c'est ça un peu la ligne.
Et comme l'aventure devait s'arrêter en 2023, mais elle continue, on ne sait pas bien jusqu'à quand, mais vous en profitez. Mais ça veut dire que tu avais réfléchi à la suite?
Oui, on a réfléchi à la suite. L'idée, c'est d'aller de l'autre côté de notre grande cour intérieure et d'aller... un peu plus près de la chapelle.
Ouais, voilà. Mais aussi pour une aventure éphémère ou...
Non, ce serait plus pérenne.
Ah, pérenne.
Et pouvoir peut-être monter une cuisine en dehors d'une pharmacie. Après, l'idée, c'est de rester dans ce lieu dans lequel on est assez attaché. Par contre, d'avoir un bâtiment qui s'adapte un peu plus à nous. On s'est adapté à lui pendant 3 ans, 4 ans. Et on va lui demander un petit effort. Et il va s'adapter un peu plus à nous.
Voilà. Vous rendre l'appareil. Là.
Ouais, de nous rendre l'appareil, exactement.
Photo, merci.
Ouais, voilà.
Gauntan geratu naiz, aizearen ziztua entzuten. Aizearen ziztua, urrunetik dator urrunera doa. Ahoz batzuek harri, eta berriz badoa.
Suivez
Suivez le guide s'attarde à Rennes après cet Hôtel Dieu gourmand. Retrouvons notre guide Gilles Brouhan. Nous fîmes connaissance dans notre premier rendez-vous rennais à Collable. Gilles Brouhan sur l'ancienne Ville Rouge, chef-lieu du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne, que nous retrouvons devant la porte Mordelaise du 15e siècle qui fut l'entrée principale de Rennes.
Ulit Anéchar et Roasson. Suivez le guide à Rennes.
Station Sainte-Anne, accès centre historique, Blélis, couvent des Jacobins, office du tourisme, campus centre.
Bonjour à tous et bienvenue à Rennes. On n'est pas très loin de la Vilaine, mais au niveau de cette porte Mordelaise, alors qui porte ce nom puisque la route qui partait d'ici partait vers l'ouest. Et à 14 km de Rennes, on a aujourd'hui une commune qui est une ancienne paroisse qui s'appelle Mordel. Et donc là, c'est la route de Mordel, d'où le nom de porte Mordelaise, installée à cet endroit. Là aussi, on sait que dès l'Antiquité, il y a déjà une porte. Et donc, si cette porte fortifiée, on voit, ce sont deux tours qui sont presque collées l'une contre l'autre. Ouais. Et au centre, on a ce passage avec cette porte chartière. On imagine assez bien les chariots et les cavaliers voilà, passant par là.
Un pont-levis à l'époque.
Voilà, et on voit que c'est doublé par une porte piétonne sur le côté. Si cette porte est encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'elle est aussi très symbolique. Il faut imaginer que la Bretagne, du temps de son indépendance, a à sa tête un duc ou une duchesse. Chaque duc ou duchesse était couronné ici à Rennes. Et dans toutes les archives de cette époque-là, quand Rennes est mentionnée, il y a toujours le qualificatif Rennes, ville du couronnement. Ça montre à quel point c'était important aux yeux des ducs de rappeler qu'ils étaient couronnés. Et le rituel du couronnement était vraiment calqué sur le sacre des rois de France. Donc c'était aussi une manière de montrer qu'ils avaient une ancienneté qui était aussi vieille que celle des Capétiens. En 1532, la Bretagne va être rattachée à la France et on suppose que c'est aussi ce statut d'indépendance qu'elle a eu pendant longtemps qui fait qu'on a gardé des témoins qui rappelaient cette histoire-là. Et donc la veille de leur couronnement, le duc ou la duchesse arrive avec son escorte ici dans cette barbacane, qui est cet avant-cour placé devant cette porte. La porte était fermée et il était accueilli par l'évêque, tous les chanoines, et le duc ou la duchesse devait prêter serment devant cette porte de défendre les libertés bretonnes, l'église de Bretagne. Une fois que cette prestation de serment était faite, la porte était ouverte et le duc rentrait dans la ville.
Nous étions à l'extérieur de la ville.
Exactement.
Et nous entrons dans la ville historique, vraiment.
Dans la ville. Et la rue qu'on devine derrière cette porte conduit vers le parvis de la cathédrale Saint-Pierre, cathédrale dans laquelle le couronnement des ducs avait lieu le lendemain de son entrée en fait, dans la ville.
Pas dit Gilles, c'est qu'elle est monumentale, vraiment, elle est colossale. Hein. Si on était en Allemagne, on écrirait colossale avec un K en plus. Non, elle est vraiment énorme, cette porte avec ses deux tours. Elle était dans quel état? Elle a été remontée, si oui, quand?
Elle est classée comme monument historique depuis 1926, donc ça fait bientôt 100 ans. Mais finalement, telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est assez récent. On regarde son histoire parce que à partir du moment où la Bretagne va être rattachée à la France, il n'y avait plus de nécessité qu'il y ait des remparts qui enserre la ville. Ouais. Donc on va commencer à les démanteler et on récupère les matériaux qui
bien
servent
sûr. Pour la récup. De la ville.
Et cette porte, elle va rester debout parce qu'elle va toujours avoir une fonction d'habitation, en quelque sorte. Dans un premier temps, c'est le gouverneur de la ville qui va être logé là. Et puis par la suite, on va avoir des logements qui vont être créés. C'est les grandes fenêtres qu'on aperçoit sur les hauteurs. Quand Rennes va brûler en 1720, il va falloir créer de nouveaux logements, donc ces fortifications qui avaient été déclassés, mais qui sont encore debout, sont transformés à cette époque-là.
Oui, parce qu'il y a un ajout quand même, à un moment donné.
Oui.
On ajoute un étage, en quelque sorte.
Oui, qu'on voit au niveau au-dessus du Mâchicoulis, là. Et donc, après coup, fin 18e, c'est transformé en prison. Et il y aura finalement toujours une occupation humaine. Dans les années 60, il y aura une discothèque dans la tour.
Une discothèque.
Une discothèque, parce que l'épaisseur des murs fait que ça gênait sans doute le voisinage. On aura même la direction de l'office de tourisme qui sera installée là, encore au début des années 1980. Donc, le meilleur ami, finalement, du patrimoine, c'est qu'il soit habité, couvert, chauffé, qu'il soit utile, parce que du coup, on l'entretient, même si c'est à minima, mais ça reste debout, et donc c'est comme ça que les choses se transmettent aussi. Et donc la ville qui en est propriétaire s'est lancée depuis une quarantaine d'années maintenant, ça a été assez long, mais dans l'acquisition des parcelles qui étaient privées, au long en fait du rempart et de ses portes. On va aussi démolir, au début des années 90, les bâtiments qu'on avait construits et qui avaient, de ce fait-là, aussi protégé la tour. Et donc, quand on a démoli ces espaces-là, on a retrouvé la lecture, là aussi, défensive du lieu. Et puis, vous voyez, dans le prolongement, vers
on
le sud...
On découvre une autre tour.
Voilà, on a donc le mur de rempart et, au fond, une autre tour du XVe siècle également, qu'on appelle la tour Jean Duchesne. C'est encore en chantier, mais il y a un projet d'aménagement d'une promenade. On va recreuser pour retrouver le niveau de fossé d'origine. Mmh. Et l'objectif de la ville, c'est de valoriser en fait le rempart avec un éclairage, avec une promenade dite des portes nordelaises qui partira d'ici, précisément.
Ah ouais. Bah bon, impressionnant. Hein. Je pense que les touristes ne s'attendent pas à ça.
Non, c'est ça. Et puis même pour les Rennais, d'avoir ces éléments de patrimoine médiévaux, puisqu'ils sont peu nombreux finalement sur la ville. Et donc c'est aussi une valeur ajoutée et une nécessité peut-être encore plus forte que de valoriser ces lieux-là, comme ils sont peu nombreux.
Vraiment dans la ville close en passant par cette porte. Et à gauche, on voit quoi ? Une crêperie.
Et oui.
La crêperie du Pont-Levis.
Pont-Levis, la bien nommée.
Rue pavée.
Alors rue pavée avec un caniveau central, des maisons, donc un pan de bois qu'on voit ici à gauche. On a par contre en face des immeubles en pierre qui ont été reconstruits au 16e, 17e et 18e siècle. Mais vous voyez qu'au-dessus du numéro 1, on a un ensemble à pans de bois qu'on aurait pu démolir et qu'on a gardé.
3 étages plus mansarde, enfin au moins 4 étages.
Avec ces rinceaux végétaux et puis le tout polychromé. Hein, on voit ces rinceaux qui sont jaunes, on a des œufs qui sont en forme d'œufs là, qui sont rouges.
Si vous êtes aussi peu familiarisé que moi avec les rinceaux, sachez que ce sont des motifs composés de feuillages et de tiges végétales.
Et puis un pan de bois qui est couvert en fait d'une peinture bleue, donc avec ces décors de palmettes aussi qu'on voit sur les consoles. Non, c'est plutôt
c'est
intéressant.
Habité ?
C'est habité. Là, on a ce grand portail devant nous en fait, qui ouvre sur une cour intérieure. Alors, un très bel escalier, Louis XVI d'ailleurs, sur le côté droit.
C'est recherché,
oui, parce que ici, en fait, comme vous l'imaginez, on est dans un...
On est dans l'hypercentre.
On est dans l'hypercentre et c'est super calme. Enfin, c'est pas très sonore en soi. Puis après, il y a l'épaisseur du bâti qui fait aussi la différence. Et donc, on imagine qu'au XVe siècle, quand les ducs faisaient leur entrée par là, on avait des maisons à pans de bois de l'autre côté, donc une rue qui est déjà pas très large, mais qui est encore moins large à cette époque-là, pour conduire du coup au parvis de la cathédrale Saint-Pierre.
Ça, donc cette rue nous mène directement face à la cathédrale.
Et donc on découvre cette cathédrale qui est unique aussi dans son architecture.
Peut-être nos amis qui nous écoutent imaginent une cathédrale, se représentent une cathédrale. On peut parier que la représentation que chacun se fait dans sa tête d'une cathédrale est totalement à côté de la plaque concernant celle-ci.
Tout à fait. La façade qu'on voit ici, c'est celle de la troisième cathédrale qui a été édifiée à Rennes. Donc la première, on imagine une église pas très très grande au VIe siècle qui marque la période d'évangélisation. Et puis comme dans toute l'Europe de cette époque-là, au XIe siècle, on va construire une cathédrale gothique. Sans doute qu'elle a été construite un peu trop rapidement ou qu'il y a eu des malfaçons. Bref, elle commence à s'effondrer au niveau de la façade au XVIe siècle.
Au début donc c'est une courte siècle, durée de vie pour une cathédrale gothique, non ?
Tout à fait. Et donc au début du XVIe siècle, on décide de reconstruire la façade. Alors on voit ce premier niveau qui date de cette époque-là, deuxième moitié du XVIe siècle. Et là aussi, le chantier va être très long puisque ça débute en 1541. Et les pots à feu que vous voyez sur les deux tours clochers ont été posés en 1704. Donc il y a pratiquement 150 ans de travaux pour réédifier cette façade. Et c'est une façade très classique. toutes de granit habillées en quelque sorte, hein, avec superposition des ordres architecturaux. Hein, vous voyez du toscan au rez-de-chaussée, du ionique avec ses volutes qu'on a aux angles des chapiteaux à l'étage, puis ensuite des chapiteaux corinthiens à feuilles d'acanthe, composites pour le dernier niveau. Enfin, c'est bien l'architecture classique du XVIIe siècle qu'on voit apparaître ici, avec un haut relief. Vous voyez cette grande sculpture qu'on a entre les deux tours, qui montre comment deux anges qui soutiennent la couronne royale placée au-dessus du globe avec les fleurs de lys. Et au-dessus, on a l'emblème du roi régnant, le soleil à visage humain, et la devise « Nec pluribus impar » de Louis XIV. Alors, vraiment, tout en haut, le roi n'a pas pris la place la plus haute quand même. On a les deux clés enrubannées qui sont les clés de Saint-Pierre, puisque la tradition dit que Saint-Pierre détient les clés du paradis.
Dis-moi, terre de lumière, couchée sur l'océan, d'où vient ce caractère qui change si souvent? Dis-moi, terre de brume, quel est ce jeu troublant? Lorsqu'en mêlée de lune, tu joues en te cachant. Dis-moi, terre de pluie, qui pleures-tu vraiment? Lorsque lourde d'ennui, tu sombres tristement. Dis-moi, terre de granit, combien d'alignements d'étranges mégalithes scrutent la nuit des temps?
Mais alors, c'est la façade qui a été refaite ou toute la cathédrale?
Alors, c'est d'abord toute la façade qui a été reconstruite.
Reconstruite.
Et donc, en 1704, vous imaginez qu'on a cette façade qui est plaquée sur la cathédrale gothique, avec une nef et un chœur de la cathédrale gothique, dans lesquels les ducs ont été couronnés. Mais en 1754, une pierre de la voûte de la nef tombe. Donc là, le Conseil du roi, par mesure de sécurité, fait fermer la cathédrale. On transfère le culte dans la chapelle Saint-Yves, qui est un peu plus bas. Et on décide de reconstruire, en fait, assez logiquement, la nef et le chœur. Il y a un concours d'architectes, tout ça prend du temps. Finalement, c'est un Anthème, à Turin-Crucy, architecte qui travaille là-bas, dont le projet est retenu. Les travaux débutent en 1785.
Et arrive la Révolution.
Et donc, 4 ans plus tard, on avait à peine édifié, si vous voulez, les murs du rez-de-chaussée, que la Révolution française éclate. Les travaux sont bien sûr interrompus. Il faudra attendre le début du 19e pour que les travaux reprennent. Si bien que dans les années 1815-1820, le bâtiment est terminé. Mais c'est un bâtiment néoclassique. Donc, vous imaginez un intérieur tout blanc, très épuré. Un peu à la mode des basiliques romaines. C'est ça, en fait, qu'on veut présenter. Et tout va changer au milieu du 19e siècle, parce que l'archevêque qui va prendre ses fonctions à ce moment-là, lui, il veut renouer avec l'église ultramontaine, avec Rome, avec les églises paléochrétiennes. Et donc, ce blanc qui est très froid, on va tout recouvrir avec de la dorure, de la peinture. Et sur les colonnes, on va mettre un stuc qui imite le marbre.
Donc c'est vraiment une cathédrale très atypique. Et finalement récente par rapport à la plupart des cathédrales françaises.
Tout à fait. Elle est complètement récente. Et c'est ce qui fait la particularité de Rennes aussi au travers de sa cathédrale. Après, l'autre élément qui est aussi intéressant, c'est que beaucoup de des cathédrales anciennes, pour le coup, ont eu un parvis complètement dégagé. Et ici, c'est resté plus ou moins dans l'état. Donc il y a toujours un peu cette part d'intimité quelque part qui nous permet aussi, même si la façade et le bâtiment ont été changés, de rappeler comment, dans la morphologie urbaine, les cathédrales étaient liées au reste de la ville.
Donc là, effectivement, l'habitat en face est proche.
Il faut imaginer, au tout début du 19e, une grande clarté, pas de vitraux armoriés, des fenêtres blanches, pour faire rentrer la lumière à flot, finalement, dans l'édifice. Et puis, ce recours à la couleur, de manière abondante et marquée, au milieu du 19e siècle. D'ailleurs, Stendhal, en venant ici, pour lui, ça lui a rappelé Sainte-Marie-Majeure à Rome, donc vraiment ces églises du nord de l'Italie. Donc c'est une pierre de Crasane qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, donc qui nous vient du Poitou, hein, et qui est plutôt calcaire. habillées, recouvertes d'un enduit qui imite le marbre. Mais quand vous les voyez comme ça, on pourrait imaginer que c'est des monolithes de marbre. Et c'est un très très beau travail de décoration en fait, qui a été fait à cette époque-là, au 19e. Vous voyez la coupole au-dessus du carré du transept, qui est une référence aussi au Panthéon romain. Tout ça était blanc. Et donc là, vous voyez, on a recouvert de feuilles d'or, les rinceaux végétaux, on a peint les armoiries des différents évêques de Rennes. Et donc, c'est venu, entre guillemets, réchauffer l'atmosphère globale.
Réchauffer, mais c'est moins lumineux, probablement.
Voilà.
Et ce qui surprend, les colonnes sont plutôt sur le côté. Ce qui surprend, c'est la perspective. On n'a pas de colonnes devant soi. Enfin, la vue est totalement dégagée, ce qui n'est pas le cas de toutes les cathédrales.
Oui, là, du coup, on a cette nef qui est très large, avec ce côté qui est marqué par ces colonnes. Au niveau du plafond, on peut avoir cette impression d'ici d'un décor de mosaïque, qui n'est pas sans rappeler Ravenne. Mais c'est une peinture où on voit le Christ qui donne les clés à Saint-Pierre, donc pour rappeler que la cathédrale est placée sous le vocable du saint.
Il y a des concerts dans la cathédrale ?
Oui.
Donc pour le public, c'est bien.
Oui, ouais, ouais. Et puis on a ces grandes orgues sous lesquelles nous nous trouvons ici. Là, c'est un orgue Cavaillé-Coll, en fait, qui a été installé en 1878. À la taille de la monumentalité, finalement.
Il est monumental aussi. Ouais. Surprise, hein, on va de surprise en surprise.
Ce que je vous propose, c'est qu'on la traverse et puis on va retrouver notre vieux renne derrière le chevet de cette cathédrale.
Parois à la verbemde, et tout bué zébet. Parois à la varive, et tangoulou ébet. À choix à saudé, on d'abelé les éons. Eustac à l'on est te Agan et d'Abes Hadet, Avo et Ostet, Tindon me raï, bébé te gantermen, Agan de Casale et Véné. Trois noms de ta clève, trois noms de ta carré, toi, comment te fais vider, comment te fais toucher,
de se suivre le guide autour et dans la cathédrale de Rennes avec notre guide Gilles Bron, spécialiste de l'architecture et du patrimoine.
Degemermat et Roisson, bienvenue à Rennes.
Voilà, on revient à la lumière, au soleil. On retrouve les maisons à Colombages. On dit Colombages ici ou on ne dit pas trop Colombages ?
On dit aussi Colombages parce que c'est le dénominateur un peu commun. Ouais. On pense qu'on a plus l'habitude de parler de Pont-de-Bois.
C'est ce que j'ai davantage entendu, effectivement.
Ouais, parce que, effectivement, avec cette évolution dans la construction depuis le 15e siècle, initialement, on avait des grands troncs d'arbres ou des grands arbres qui permettaient d'avoir des éléments de bois relativement importants. Et puis, la génération suivante, les arbres étaient plus petits. Donc, il a fallu trouver d'autres moyens dans la construction, et d'où le Pont-de-Bois avec différentes parties, et l'encorbellement qui fait son apparition à ce moment-là, avec un étage qui s'avance sur le rez-de-chaussée. Et ça, on va le voir finalement en vigueur jusqu'au XVIIe siècle. Et au XVIIe, on revient, c'est les ordonnances aussi, les édits royaux qui demandent ça, à des façades plates, sans doute pour gagner aussi en espace dans les rues qui restent étroites. Et ce qui est intéressant quand on sort de la cathédrale et qu'on se retrouve ici, c'est qu'on peut mieux imaginer ce qui était Rennes jusqu'à l'incendie de 1720, c'est-à-dire des rues comme ça, étroites, héritées de l'époque médiévale, bordées en fait de maisons. Et on comprend bien aussi comment ça a si bien brûlé finalement en 1720, puisque assez logiquement, le feu se communiquait comme ça de maison en maison.
On est en plein cœur de Rennes et on se sent bien loin de l'animation ou de l'agitation, s'il y en a, du centre-ville.
Complètement. Et c'est vrai que les Rennais, quand ils parlent de ce secteur-là, ils parlent du vieux Rennes. Pour eux, c'est le Rennes du Moyen-Âge, alors que rigoureusement, on n'a plus vraiment de maison de cette époque-là. Mais c'est l'ambiance qui s'en dégage, qui donne cette atmosphère particulière, effectivement.
Parce que Rennes, c'est une ville, la ville de Rennes, de plus de 200 000 habitants.
Oui, oui, on est à 216 000 habitants, et donc à près de 435 000 avec l'agglomération autour. 11e ville de France. Et c'est vrai que beaucoup de touristes nous le disent, c'est une porte de Bretagne finalement ici. Donc pour ceux qui ont pris le temps de s'arrêter, ils sont agréablement surpris parce qu'ils n'imaginaient pas un tel plaisir de ville finalement, parce qu'il y a tout ce plateau piétonnier qui permet d'arpenter la ville de manière très douce. Vous allez voir qu'ici, on passe de ce secteur de la cathédrale où il y a plein de maisons à pans de bois au secteur reconstruit après l'incendie de 1720 avec des immeubles en pierre. Mais ça se fait vraiment en douceur. Il n'y a pas de rupture, si vous voulez, entre les deux. Alors que l'architecte aurait pu opposer finalement l'ancien avec le nouveau, et pas du tout. Au contraire, il a eu cette vision d'urbaniste finalement avant l'heure, mais vraiment de coudre ensemble les quartiers réchappés de l'incendie avec les nouveaux quartiers du coup reconstruits.
Alors bon, si on veut se baigner, la côte est, la plus proche est à combien de kilomètres?
Le plus proche, on est à trois quarts d'heure de route.
Ouais. Bon, cela dit, je suis passé devant, mais c'est pas dans ce quartier ici, mais j'ai l'impression que il y a à Rennes une piscine exceptionnelle. Hein.
Oui, la piscine Saint-Georges.
Saint-Georges, quel beau nom.
Voilà, et puis piscine Art Déco qui a été, c'est une vieille dame, elle approche des 100 ans.
Presque un siècle, oui.
Ouais. Parce qu'elle a été inaugurée, la date qui est portée, c'est 1925. Rigoureusement, elle a été inaugurée par le maire en 1926. Mais c'est un très bel...
Toujours en activité.
Déco, ouais. Qui est toujours en activité. Elle est classée au titre des monuments historiques depuis 2016. Et le souhait des élus, puisque c'est la ville qui est propriétaire, c'est qu'elle garde sa vocation de piscine. Parce que effectivement, c'est compliqué aussi pour des structures ou des infrastructures comme ça anciennes. Mais c'est toute l'âme aussi du lieu, quoi. Et donc, si elle peut garder cette vocation-là, ce n'est que mieux.
Donc on y va pour nager, mais on y va d'abord pour le lieu.
Oui, complètement.
Piscine Saint-Georges.
Ouais. Et puis elle est en plein centre-ville, donc c'est aussi un autre atout. Le maire de l'époque, Jean Janvier, qui a souhaité cette piscine, il a dû s'armer de courage et de ténacité, parce que c'était pas gagné d'avance. Hein. Si on se remet dans le contexte de l'époque, les Rennais disaient, mais si on a besoin de baigner, on va dans la
piscine.
Alors le maire, à juste titre, répondait, oui, et vous baignez quelle période de l'année dans la Vilaine? Ah oui, effectivement, c'était juin, juillet, août, peut-être septembre, voire octobre, mais pas toute l'année. Bon, là, au moins la piscine permettait de baigner toute l'année. Mais quoi.
D'ailleurs, y avait-il des piscines partout au début du XXe siècle? Je ne suis pas persuadé, non?
Eh bien non, la France était très en retard à ce niveau-là, parce qu'avant la guerre de 14, on dénombre 25 piscines en France, contre 800 au Royaume-Uni et contre 1300 en Allemagne. Ça montre la différence, mais oui, c'est pas les mêmes cultures. Mais avec les progrès de l'hygiénisme et puis des élus, vraiment pétri en fait par ces valeurs-là, ça a permis de bouger les choses, effectivement.
Et de piscines de cette époque-là, y en a-t-il beaucoup encore? Alors, il y en a une à Paris, je ne sais pas de quand elle date, dans les belles, belles piscines, mais comme celle-ci, sont-elles nombreuses ou est-elle assez unique, finalement, cette piscine Saint-Georges?
Du coup, elle est assez unique pour être encore en fonctionnement aujourd'hui, effectivement. Alors, il y en a d'autres qui peuvent être plus anciennes, mais où il n'y a pas forcément un décor similaire. Emmanuel Leray, qui était l'architecte de la ville sous Jean Janvier, qui a été chargé de construire cette piscine, c'était sa première et dernière piscine. Et donc, il a fallu qu'il aille voir d'autres exemples. Donc, il s'est intéressé plutôt à celle de la Butte aux Cailles à Paris, qui, elle, date de 1909, donc qui était une des plus récentes.
Et qui existe
plus,
encore.
Qui existe encore aujourd'hui. Ouais. Après, il y a eu d'autres piscines. Bah, je pense à Molitor, en fait, qui est plus tardive, en fait, que Saint-Georges.
Voilà, je pensais à Molitor, c'est ça, Molitor. Ouais. Si la piscine Molitor vous intéresse, à Paris, inaugurée en 1929, restaurée, elle fait partie désormais du Molitor Hôtel Spa Paris M Gallery Collection, au cœur du très chic 16e arrondissement, avec un tarif plutôt chic aussi.
On arrive ici au bout de la rue du Chapitre. On est vraiment à cette transition qu'on évoquait entre la ville de bois autour de la cathédrale et la ville de pierre dans laquelle on entre maintenant. Ça a brûlé en 1720 pendant près d'une semaine. C'est 33 rues qui ont été détruites, c'est près de 900 maisons qui vont disparaître, c'est 8000 Rennais qui vont se retrouver à la rue du jour au lendemain sur une population qui comptait 40 000 habitants à peu près à cette date-là. Très très vite, c'est Jacques Gabriel, qui est l'architecte du roi Louis XV, qui va être chargé de reconstruire la ville. Et Gabriel, il impose la reconstruction en pierre et il a ce tour de force finalement. Donc on va passer sur un parcellaire avec des îlots qui se coupent à angle droit. avec des rues très larges, de 7 à 8 mètres. Et donc, il va ouvrir la ville. C'est vraiment l'esprit des Lumières du 18e. Et en même temps, il rationalise, si vous voulez, la construction. Et on a coutume de dire que la copropriété est née à Rennes avec sa reconstruction après ce grand incendie. Parce qu'on est passé de maisons à pans de bois individuelles, on va dire, à des immeubles où là, on va avoir plusieurs familles en fait, qui vont s'y installer. Et il va doter du coup le centre de Rennes en créant près de 550 appartements qui n'existaient pas.
Donc la population va croître.
Voilà. Tout ça autour de deux places majeures vers lesquelles nous allons aller maintenant, qui vont permettre aussi d'ouvrir la ville et le tissu urbain. Et donc là, on a bien ce lien, cette couture finalement, entre, comme on l'évoquait, entre les différents quartiers. C'est-à-dire qu'à chaque intersection, il va avoir des placettes intermédiaires qui, du coup, accompagnent cette liaison entre les deux architectures.
Et nous sommes toujours sur un sol pavé. Depuis un petit moment, là.
Oui, parce que on est aussi...
On arpente les pavés.
Dans un secteur qui est un secteur sauvegardé. Ça, c'est le principe de la loi Malraux d'août 62. Et Rennes s'est dotée d'un périmètre sauvegardé comme ça à partir de 1966. Donc, ce qui a permis aussi de protéger son centre ancien. Là, les techniciens des bâtiments de France vont nous dire c'est idéal d'avoir un registre, je dirais, juridique comme ça, du secteur sauvegardé, parce que c'est la loi qui s'applique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des enseignes, au niveau des revêtements des rues. Tout ça est cohérent, quoi.
Et piétonniers.
Et piétonniers. Et donc là, on arrive place du Calvaire. Ça, c'est une place qui va être transformée dans les années qui viennent aussi. Bon, y a déjà du végétal pour en apporter davantage. Et puis, avoir des mobilités douces aussi, comme on l'a pu le voir... En début de visite sur la place Sainte-Anne. Alors, c'est pas propre qu'à Rennes, hein. Il y a beaucoup de villes qui, bien sûr, s'orientent vers cette décision-là aujourd'hui, mais avoir des cœurs de ville plus respirables, plus pratiques finalement, et agréables aussi à vivre au quotidien.
La rue large aussi, cette rue. Donc, c'est la rue Beaumanoir dans laquelle nous entrons.
Ce qui fait la différence avec les rues héritées du Moyen-Âge, qui sont plutôt étroites et resserrées, c'est la polychromie des pans de bois, donc ce qui donne un côté pittoresque, sans que ce soit péjoratif, bien sûr. Et là, on rentre dans cette architecture qui est rationalisée, où on va avoir deux couleurs dominantes. Ça va être le gris du granit qu'on retrouve au niveau des arcades du rez-de-chaussée, parce que dès l'origine, c'est pensé pour accueillir les commerçants, avec des entresols au-dessus où ils peuvent entreposer les marchandises qu'ils vendent au rez-de-chaussée. Et puis, dans les étages supérieurs, on va avoir des encadrements de fenêtres qui vont être en pierre calcaire. Et donc, on a souvent ce mariage de ces deux couleurs, du gris, marron clair, du granit, associé à la couleur blanche de la pierre calcaire qu'on retrouve dans les étages.
Si nous n'avions pas, Gilles, déjà visité la cathédrale, moi je vous aurais dit qu'on est en train de marcher en direction de la cathédrale de Rennes.
Ah oui, parce qu'on voit au fond là-bas, effectivement, le massif occidental d'une église, qui est l'église Saint-Germain.
Mais qui est très très haute. Hein.
Alors d'ici, elle nous paraît
très haute.
Elle l'est aussi, pas autant que la cathédrale. Et c'est une des rares églises gothiques pour le coup, puisqu'elle a été reconstruite à partir de 1434. Et donc, suivant le mode de construction de l'époque, vous avez ce qu'on appelle le massif occidental. C'est l'entrée principale avec cette grande verrière qu'on voit ici, en pleine lumière, qui est tournée vers l'ouest, donc du côté du soleil couchant, parce que le chevet à l'opposé est tourné du côté du soleil levant.
Et alors, à notre gauche, je le sais parce que j'y suis déjà passé devant, aussi une architecture surprenante pour l'Opéra de Rennes.
Tout à fait. Alors là, on débouche justement sur cette place de l'Hôtel de Ville, sur laquelle on a deux édifices publics qui se font face, l'Hôtel de Ville qui fait face à l'Opéra. Donc on va pouvoir traverser...
Donc l'opéra avec une façade en demi-cercle.
C'est une façade à l'italienne qui a été réalisée au début du 19e siècle puisqu'on a commencé les travaux en 1830 et l'opéra qui était à l'époque le théâtre municipal a ouvert ses portes en 1836 avec cette façade à l'italienne qui n'a pas du tout fait l'unanimité auprès des Rennais. Pourquoi elle n'a pas fait l'unanimité? Parce que Rennes était déjà ce target d'être la capitale de la Bretagne. Et c'était une capitale qui n'avait pas de salle de spectacle, alors que des villes inférieures en
secondaire,
démographiques, On était doté déjà depuis la fin du XVIIIe siècle. On pense à Brest notamment, à Lorient, Saint-Brieuc, avaient des théâtres construits dans les années 1780. Et ici, à Rennes, il y avait bien une activité, des activités culturelles, mais on jouait dans les salles de jeux de paume, qui étaient très nombreuses, il faut le dire aussi, ici à Rennes. Mais bon, du coup, on n'était pas à la hauteur non plus de la réputation qu'on voulait donner. Et en 1830, suite à la Révolution de Juillet, il y a de nouvelles équipes municipales qui s'installent dans les villes. C'est le cas ici aussi à Rennes. Et le premier mouvement de cette nouvelle équipe, c'est de doter la ville, une fois pour toutes, d'une salle de spectacle digne de ce nom. Donc, on fait appel à l'architecte de la ville qui, à l'époque, est Charles Millardet. Et Charles Millardet, en regardant cette place qui a été aménagée au XVIIIe siècle, se dit, le bâtiment de référence, c'est l'hôtel de ville qu'on a là. Et il imagine cette façade à l'italienne. Alors c'est aussi, à l'époque, le retour à l'Antiquité. Donc là, il s'inspire du théâtre de Marcellus qui existe à Rome, qui a cette forme semi-cylindrique. Mais si, avant tout, il imagine une façade comme celle qu'on voit là, c'est parce qu'elle épouse parfaitement toute la partie centrale de l'hôtel de ville, ouais, qui lui fait face.
On peut penser qu'on peut l'emboîter finalement dans l'hôtel de ville.
Et je dirais qu'il a même poussé le vis jusqu'à prendre les mesures de la partie centrale de la mairie pour vraiment avoir quelque chose de parfait. Et au final, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez à un siècle d'intervalle deux édifices publics qui se font face et qui dialoguent finalement l'un avec l'autre sur cette place.
Oui, parfois c'est l'hôtel de ville et la cathédrale qui se font face, mais là ici c'est l'hôtel de ville et l'opéra. Une salle de combien de places?
On est autour de 650 places.
Ah oui, c'est pas énorme.
Une petite salle. Oui.
Le bâtiment paraît plus massif. On se dit que ça va être une salle plus importante en nombre de sièges. Quoique peut-être il y en a moins aujourd'hui qu'à la création.
Dès l'origine, il y en avait un petit peu plus, mais pour des raisons de confort, ça a été diminué aussi au niveau du nombre. Effectivement, vous voyez que ce théâtre, c'était une vaste opération immobilière, en fait, parce que vous voyez des immeubles avec des galeries d'arcade de part et d'autre, des appartements qui sont créés au-dessus de ces galeries d'arcade. Et en fait, l'opération immobilière, c'était que la vente des commerces et des appartements permettait de renflouer une partie de l'emprunt que la ville avait contracté pour construire la salle.
Encore de l'Opéra de Rennes avec Gilles Brouhan lors de notre prochain et dernier rendez-vous rennais. Mais vous avez peut-être à nouveau un petit creux déjà aperçu au marché des Lys du samedi à Rennes. Retrouvons à la criée la célèbre galette saucisse.
Eulit Anéchar et Roasson. Suivez le guide à Rennes.
À la criée, je vais commander une galette saucisse chez Biocrêpe. Jean-Philippe, juste avant de parler de la galette saucisse, un petit mot de la criée, c'est l'un des marchés de Rennes?
Oui, le seul marché de Rennes ouvert toute l'année, donc avec pas moins de 30 commerçants.
Et Biocrêpe, tu t'es installé en quelle année ici à la criée?
Moi, ça fait un an et un mois que je suis là, et pour l'instant ça marche très très bien, clientèle très sympathique, des gens très agréables et des fidèles parmi les fidèles, ouais.
Donc c'était déjà un lieu où on préparait les galettes saucisses et les crêpes ici?
Oui.
J'ai appris que ça s'appelle les Billig, c'est ça?
Billig, oui.
Billig. On dirait un batteur face à un musicien face à sa batterie. Il y en a 6, c'est beaucoup, hein?
6, eh bien écoute, 6, c'est au moins ça, c'est le minimum pour fournir le nombre suffisant de galettes et de crêpes donc pour la journée.
Tu en fais cuire 6 en même temps?
Toujours 6 en même temps.
Ah ouais, il faut surveiller quand même.
Et n'est-ce pas? Il faut surveiller, ouais. Il faut faire attention qu'elle ne crame pas.
Alors, la première chose, je pense que tu seras d'accord avec moi, la première chose à faire quand on arrive à Rennes, c'est de venir ou manger une crêpe ou manger une galette.
Oui, c'est la tradition ici. La tradition, c'est la galette saucisse à Rennes.
Je vais te commander une galette saucisse. Ta galette saucisse est-elle la meilleure de Rennes?
Eh bien, écoute, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit. Bon, on va goûter la meilleure galette saucisse de Rennes. La galette, d'une part. Alors, la préparation de la galette, c'est comment?
Bio, totalement bio. Farine bio, française.
Farine de quoi?
Sarrasin. Avec sel et eau.
C'est tout?
Oui, tout à fait.
Farine, sel et eau. Jean-Philippe commence par moutarder la galette. Et ensuite, on glisse la saucisse.
Alors, pour information, la moutarde n'est pas obligatoire. Non. On propose la moutarde ou le ketchup, mais la tradition veut que la galette, normalement, soit froide et saucisse chaude.
Galette froide, saucisse chaude.
Tout à fait, oui.
Et la saucisse bien, bien dorée. Hein. Et ensuite, tu enroules la galette autour de la saucisse.
Voilà, tout à fait. Et maintenant, plus qu'à déguster.
Eh bien, on va goûter. Ah oui, donc galette froide, saucisse chaude. Ça tient dans la main.
Et oui, d'accord. Alors, ce que j'ai c'est le sarrasin, justement, le goût du sarrasin comme ça, chaud. En fait, une galette aussi peut aussi se déguster nature, sans rien dedans, absolument rien. Pas de beurre, juste nature comme ça, en sortant de la plaque. C'est parfait.
La galette est assez fine. La saucisse, vraiment croquante. Hein.
Ah oui, c'est une saucisse à l'ancienne que je commande. Alors, tous mes produits, déjà, ici, viennent dans un coin. On est proche, hein. C'est dans un périmètre d'environ 20 km autour de Rennes. Mes œufs, ma saucisse, de la farine, bien entendu, enfin, tout, quoi. Tous mes produits, ouais.
Bon, ça peut donner un peu soif, la galette. Qu'est-ce qu'on va boire plutôt avec ça? Que préconises-tu?
Voilà, un petit cidre bio, justement, d'un monsieur qui s'appelle Régis Tropé, qui est à côté de Rennes, qui s'appelle un petit village, La Boixière. Vraiment excellent. Très léger, très fin.
Bon, alors, je vais goûter le cidre. Je suis ravi de déguster la galette saucisse, comme on doit la déguster, dans la main, debout, en marchant.
Exactement, c'est la tradition du marché, ici. Les gens viennent et justement font leur marché. Donc il y a, vous voyez, les fruits et légumes juste derrière moi là. Le principe, c'est parfois quand ils font la queue aux fruits et légumes, et en attendant, ils envoient quelqu'un pour chercher deux galettes saucisses et pour la déguster sur la file d'attente. Donc c'est bien.
Ça, donc on a fini la galette saucisse quand on est arrivé. C'est le moment de commander. Exactement. Effectivement.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Donc au marché, c'est ça, au marché, on marche avec une galette saucisse.
Au marché, exactement, c'est bien ça.
Jean-Philippe, il y a un jour de la galette. La galette, c'est tous les jours, mais il y a un jour quand même.
Ah oui, en effet, alors il y a un jour, précisément, c'est le vendredi. C'est la tradition rennaise d'avoir la galette et les crêpes le vendredi.
C'est pas que le jour du poisson le vendredi, mais c'est le jour de la galette.
Oui, c'est surprenant.
Il n'y a pas de galette au poisson.
C'est aussi le jour de la galette, mais le vendredi, comme le poisson, n'est-ce pas? Mais justement, c'est que les commandes affluent ce jour-là.
Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos. Dans toute l'île, il aime avec du lait ribot. Et si tu m'abandonnes, alors je m'empoisonne avec les frites de Caen et les rillettes du Mans. Galette.
Nadège, on se retrouve chez Biocrêpe. Vous êtes avec votre valise, vous allez quitter Rennes.
Oui, c'est ça.
Prendre le train?
Oui.
Mais vous vouliez faire une chose encore avant de quitter Rennes?
Oui, tout à fait. Bah, c'était manger une galette saucisse, qui est la spécialité.
Ce sera votre première ou vous en avez déjà?
Première.
Ah, ce sera la première.
Voilà.
C'est comme pour moi alors. Et vous ne vouliez pas partir avant de l'avoir goûtée?
Bah oui, c'est ça. C'est un peu dommage. Ça aurait été dommage quand même. Ça.
Alors j'attends que vous la goûtiez puis vous allez me dire. Plutôt moutarde ou ketchup alors?
Bon, on va prendre moutarde.
Donc moutarde. Bon, verdict, Nadège. Elle peut être chaude, attention.
C'est très bon.
Ouais. Avec la galette fine.
Elle est très bonne.
Ouais. Validée par Nadège. Ouais, c'est vrai que parfois, la galette est très épaisse, mais Jean-Philippe les fait fines. Jean-Phi, pardon. Il y a des variantes également, Jean-Phi?
Eh bien, très cher Thierry, oui, il y a des variantes. Il y a des variantes. Alors moi, par exemple, je propose la galette saucisse. Donc, alors, je disais moutarde, ketchup. Ensuite, je propose aussi des oignons avec. Donc, saucisse-oignon qui marche très, très bien. Ou sinon, une encore qui est extraordinaire et au goût avec du fromage fondu. C'est sensationnel.
Ah là là là, il faudra revenir. Hein. Merci beaucoup.
Oui, Thierry, il faudra revenir.
On va revenir à Rennes et à la galette saucisse ici au Biocrêpe à la Criée. À Rennes, tout commence et tout finit avec une galette saucisse. Merci Jean-Philippe, Biocrêpe à la Criée, Gilles Brouhan que nous retrouverons et l'original Romain Joly. Suivez le guide en Bretagne, préparé avec la complicité de Sonia Schaeffer, chargée relations presse SPL Destination Rennes, Christine Martin pour ses précieux conseils et sa voix, réalisation Romane Feocchio. Les sites internet tourisme-rennes.com et origine-rennes.fr.
Kenavo Arvechal.
Au revoir et à bientôt.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Montserrat Vidal.
Et avec Gérard Vincent, nous continuons notre réflexion sur les relations entre littérature et folie à propos de son roman « L'incandescence ».